On va regarder deux paraboles. La première, c'est sur le grain de moutarde ou grain de sénévé. Matthieu 13, 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » On va aller voir dans Marc. Ça se dit sensiblement la même chose. Marc 4:30, il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » On va aller voir Luc 13 aussi, Luc 13, 18. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son champ. Il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Okay, les trois se ressemblent un peu, mais on voit des petites différences. Marc, il ne parle pas d'un arbre, mais il parle qu'il y a des grandes branches. Ici, dans Luc, il dit que la semence, elle est jetée. Le contexte dans Matthieu et dans Marc est semblable, mais dans Luc, ça semble être à un autre moment. Mais dans Matthieu et dans Marc, Jésus et ses disciples sont encore en Galilée, puis c'est dans une série de paraboles sur le royaume, parfois appelé le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ou juste le royaume. Donc Jésus est en train d'expliquer ce qu'est le royaume. Il est en train d'annoncer à ses disciples qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Il parle de grain de moutarde, ou on peut aussi appeler ça sénévé. Mais là, il y a un débat qui existe. On n'est pas sûr c'est quoi exactement ce grain-là. Mais en tout cas, de toute évidence, c'est une petite semence. D'ailleurs, la plus petite des semences, c'est-à-dire la plus petite des semences semées par l'homme. Parce qu'il existe des grains presque microscopiques, là. Mais c'est pas de ça que Jésus parle. Il parle de ce qui peut être semé. C'est la grosseur d'un grain de sable. C'est vraiment mini, là. Mais ça devient bien plus grand que les plantes potagères, là, que les légumes. Ça devient comme un arbre. Si c'est effectivement ce que on peut voir certaines images sur Internet, là, ça devient vraiment un arbre avec des branches larges. Ce serait comme un moutardier. Mais c'est pas évident de savoir de quoi il s'agit exactement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant que toute la formation de l'arbre, là, c'est déjà tout programmé dans une petite graine minuscule. Là. C'est impressionnant. C'est quoi la signification de cette parabole-là? Une éducation? Est-ce que vous voyez autre chose?
Pas juste le côté évangélisation, je vois aussi le côté du royaume de Dieu. Le royaume des cieux qui progressent dans le cœur d'un croyant aussi. C'est une petite semence, mais incroyable tout ce que Dieu peut accomplir à travers dans nos vies. Puis, je vois ça surtout à cause des oiseaux du ciel qui viennent s'abriter dans les branches. Dans un sens, ça a un impact aussi, ça. On ne peut pas trop paraphraser, là, mais ça a aussi un impact sur l'entourage. Puis, c'est un endroit où on peut aller se réfugier. Enfant de Dieu qui a...
Oui, je lisais certains commentateurs, ils comparent les oiseaux au monde, là, à nos voisins, mettons, qui ne sont pas croyants, mais qui peuvent s'abriter à nos branches, bon, en tout cas aux branches du royaume des cieux, qui est... L'arbre lui-même est épanoui, mais en plus, il profite aux autres qui peuvent venir s'abriter sous lui. Le point principal, là, qu'est-ce que Jésus veut dire principalement à ses disciples? Dans le contexte, c'est que Jésus est en train de parler du royaume, puis il donne certaines indications pour que les disciples comprennent c'est quoi le royaume. Mais naturellement, eux, ils s'attendaient à quoi? Avant même de connaître Jésus, là, ils s'attendaient à quoi à propos du royaume de Dieu? Les disciples s'attendaient à quoi par rapport au royaume ou au Messie?
Qu'il viendrait puis qu'il établirait ça, paf!
Oui, un gros royaume flamboyant, là, qui soit le roi, là, qui libère de l'Empire romain, une chose de grandiose, là, qui restaure la gloire d'Israël. Puis Jésus leur dit, non, ça commence par un grain de moutarde.
Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le Messie est venu comme un homme en apparence ordinaire.
C'est ça. Donc, ça commence très petit, de manière très modeste. Un petit commencement, là, mais Jésus dit, comme la petite graine là, de moutarde, là, de sénévé, ça a l'air de rien, mais ça peut devenir un arbre incroyable, là, qui n'était même pas capable de déplacer. Mais le royaume des cieux va grandir. C'est progressif. Puis c'est quoi le but? Pourquoi Jésus leur raconte ça? Et il ne le dit pas expressément. Il ne dit pas, voici, je vous raconte ça afin de... D'après vous, pourquoi il leur dit ça aux disciples? Oui, puis s'attendre à cela. Peut-être leur donner une vision de...
Moi, je pense que c'est un encouragement, parce que dans un sens, la mesure, c'est pas ce que j'apporte au royaume, c'est comment Dieu va la faire progresser. À quelque part, on donne ce que Dieu nous a donné. Mais puis on sait des fois que c'est, pas des fois, toujours, c'est vraiment peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est tellement encourageant de savoir que c'est Dieu qui fait fructifier la semence. Peu importe la...
Puis tu regardes une plante, ça commence petit, mais ça peut briser le béton ou l'asphalte là, avec les racines. Ça peut pénétrer, ça peut même briser le métal. En mathématiques, ils appellent ça la théorie du chaos. C'est qu'un petit changement de rien peut apporter des gros résultats, là. Comme le battement d'une aile d'un papillon peut provoquer une tornade dans un autre pays, là. Mais on sait que, dans le fond, le chaos, là, ça n'existe pas, là. C'est les lois de Dieu, là. C'est Dieu qui est derrière ça. Bien, Jésus voulait les encourager. Encourager ses disciples qui voyaient un début très humble du royaume. Bien, Jésus a dit, là, le royaume arrive, là. Et ils pouvaient avoir un sentiment de découragement, d'être désappointés. C'est pas ce qu'ils s'attendaient. Comment le royaume a commencé? Bien, il a commencé par la venue de Jésus. Puis Jésus, toi, il était humble. Quels sont les détails qu'on sait à propos de la vie de Jésus, en tout cas dans son ministère, qui montrent que c'était humble? C'est ça. De par sa naissance, il est fils d'un charpentier, de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth?
Contrairement à nous, lui a pu choisir où il est né, puis il a décidé de choisir de naître dans un milieu humble. Nous, on est né où on est né, mais lui, de tous les choix qu'il aurait pu faire, c'est là qu'il a décidé de naître.
C'est vrai.
En plus, comme étranger dans une étable.
Ouais. Ceux qui ont su, de la manière qu'il était né, là, dit, wow, c'est pas royal comme naissance. Là. Ça, c'est un autre point. Il était comme un prédicateur itinérant. Les gens, ils pouvaient le regarder de haut. Là. C'est qui ce gars-là?
Il n'y avait même pas une pierre où reposer sa tête. Il n'y avait pas de maison. Il n'y avait rien, en fait, sur la terre. Là. Aucune possession.
En fait, tout lui appartenait.
Amen.
L'Évangile ne souligne pas vraiment ce point-là, mais il n'y a pas eu d'épouse non plus. Il n'y a pas eu d'enfant. Il était seul. Là. D'autres points aussi au niveau de son ministère? Oui? Oui. Bien, il y a ça qui est étrange aussi, c'est que celui qui amène le royaume, a souffert. La souffrance de Jésus aussi, ça montre un début humble. Là, la manière qu'il a été traité aussi, là, qu'il a été rejeté, méprisé, même condamné comme un criminel, comme le pire des criminels, là, condamnation à mort par la torture. Alors, il a même été incompris par sa famille. Quand les gens qui suivaient voyaient que même sa propre famille ne le comprenait pas, il était rejeté par son propre peuple, sa propre localité, là. C'est pour ça qu'il a dit « Nul n'est prophète dans sa patrie ». Il a été rejeté par les autorités. Il a été suivi par des marginaux de la société, puis condamné à mort par le pire des criminels. Puis, Jésus amenait le royaume, mais c'était pas seul, là. Dès le début de son ministère, des 3 ans de son ministère, il était avec des gars qu'il a choisis, là. Et comment ils étaient, ses disciples? Oui?
Il dit qu'ils étaient reconnus comme étant des gens sans instruction.
Oui, sans instruction. Puis en tant que disciples, comment ils étaient? Ils étaient souvent incrédules. Coudonc, vous n'avez pas de foi, là, combien de temps je vais être pogné que vous autres? Souvent craintifs, mais c'est lié. Ils avaient peur, stressés par les événements. Mais c'est lié avec le manque de foi.
On voit qu'il y avait plusieurs types de caractères, tu sais, avec des tempéraments différents, puis que Dieu a accepté dans son noyau.
Mais c'est ça, ils nous paraissent tellement différents, même si on n'a pas une foule de détails, qu'on se dit, comment 12 gars différents comme ça peuvent se tenir ensemble, là? Si Jésus n'était pas là pour les souder, ils ne resteraient pas ensemble, ça se peut pas. Ils sont trop différents.
Surtout que Jacques et Jean, ils ont demandé, c'est leur mère, mais à quelque part, ils sont en arrière de ça, là, d'être assis à sa droite.
Et dans Marc aussi, ça dit que c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. En fait, leur mère a dû le demander, mais après ça, eux, ils ont confirmé que c'est ça qu'ils voulaient. Mais donc, en plus, ils étaient compétitifs entre eux. Il y avait de la rivalité, orgueilleux.
De voir aussi qu'ils auraient pu empêcher l'appel que Jésus avait, là, à la croix, quand on prend l'exemple de quand il était pour être livré, puis que c'était Judas, là, Pierre a sorti l'épée, puis a tranché. Tu sais, Jésus a intervenu, parce qu'il n'aurait pas intervenu, là, le disciple est en train de gaffer qu'est-ce que le Seigneur est en train de...
C'est vrai. Puis pourtant, Jésus l'avait averti, là, que ton désir de m'empêcher d'aller à la croix, là, c'est Satan qui te met ça dans la prison.
Mais en même temps, c'est pas fortuit. Le choix de Jésus, de ses disciples, c'était de toute éternité. Ils ont été appelés par Dieu depuis avant. Fondation du monde, j'imagine. Puis Dieu a choisi, comme il nous a choisis, il a choisi ces hommes-là particulièrement pour ça.
C'est ça. C'est pas parce que Jésus il a gaffé là, en choisissant ces hommes-là. Là. C'était prévu. C'est voulu. Le soir de l'arrestation, c'est une autre évidence de la faiblesse du cœur humain. Là, tous ses disciples se sont finalement sauvés. Ils ont comme abandonné leur maître, ils ont trahi leur maître. Les disciples, ils étaient craintifs, peu de foi, compétitifs entre eux, ils ont abandonné leur maître. Pourtant, Jésus leur dit le royaume va s'étendre. Il s'est étendu à travers le monde. Donc, même si c'est une petite graine là, qu'on peut écraser, pousse. Donc, pour Dieu, un petit et un faible commencement ne doit pas être méprisé. C'est précieux. Puis on voyait ça dans Zacharie. La parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. C'est comme son oint. Ses mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant le fil à plomb. C'est que la construction avance là, dans la main de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. C'était prophétique, là. Mais on voit, c'est la volonté de Dieu que par des petits commencements qu'on peut mépriser, se moquer, que les moqueurs soient confondus, que nos attentes soient confondues si on n'a pas les bonnes attentes. Dans Luc, le contexte est un peu différent. Jésus est en route vers Jérusalem. Puis là, il y a des langues sales qui vont dire, ah, vous voyez ici, il y a une erreur, là. La parabole est... Mais Jésus a très bien pu dire cette parabole-là à maintes reprises. Mais Jésus est en route vers Jérusalem, puis c'est tout juste avant qu'il... En tout cas, dans Luc, là, c'est tout juste avant qu'il avertisse les Juifs que, attention, vous pourriez être exclus du royaume. Là. Vous allez pleurer, là. Même les païens vont être dans le royaume, et vous, vous ne serez pas là. Réveillez-vous. Ça, on le voit dans les versets suivants. Il dit, « Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Jésus montre l'ordre va être inversé. Là. Les Juifs, vous êtes les premiers, mais il y a des païens qui vont vous devancer, de toutes les nations du monde. Jésus a donné cette parabole-là, qui est la même parabole, mais dans le contexte où ce qui est averti, le royaume, c'est plus grand que ce qu'ils pensent. Là. Ça commence petit, là, mais ça va même dépasser vos terres. Le pays d'Israël, ça s'en va dans toutes les nations. Donc, ce qui a connu un petit commencement en Israël, bien, va s'étendre à toutes les nations du monde. Le royaume s'est formé de Jésus et de tous ses disciples. Ce n'est pas un territoire, c'est des personnes. C'est l'Église universelle. Mais il y a d'autres observations. Comme Dieu fait croître la plante de moutarde, là, tu ne fais rien. Là, ben, tu peux peut-être ajouter de l'eau, puis la pluie et le soleil peuvent faire la job. Mais c'est pas toi qui tire la plante là, pour qu'elle pousse. Là. Ou que tu colles des morceaux. Ça se fait tout seul. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait pousser la plante, mais c'est Dieu qui fait croître le royaume aussi. Il y a comme c'est comme des lois de la physique, là, mais là, c'est des lois spirituelles que Dieu a mis. Il veut que ça s'implante comme ça. Par multiplication des cellules, là, mais nous, c'est multiplication des disciples. Puis le royaume s'agrandit. C'est Dieu qui fait croître. Je pense que c'est Carson qui avait noté ça. La croissance du plant, elle est ininterrompue. Ça veut dire que ça grandit. Il peut peut-être avoir des pauses là, en hiver, là. Des périodes qui s'apposent plus vite, mais c'est une croissance que ça recule pas, ça arrête pas, puis tout à coup, ça va recommencer plus tard. Ça peut peut-être ralentir, mais c'est une croissance qui continue. En fait, c'est la même plante de moutarde qui est au début à la forme d'une graine et à la fin à la forme d'un arbre. Mais c'est le même. C'est le même royaume. Aujourd'hui, on est dans le même royaume que ce que Jésus a implanté et avec ses disciples. C'est pas un nouveau royaume aujourd'hui, là, c'est le même que celui de Jésus. Qui s'est multiplié. Donc, nous sommes les disciples des disciples des disciples des disciples de Jésus. Il y en a juste un aussi. Il est unique. Voyez-vous d'autres observations? On détruit la nature à cause de à cause du péché, la pollution. On peut pas complètement détruire la nature. Ils disent, la nature prend soin d'elle-même. La mère nature, c'est pas mère nature, là, c'est que l'homme, même si on peut tout détruire, on peut pas démolir là, la création de Dieu. Là. Ça continue.
Il y a aussi des cycles dans la croissance qui fait que la plante meurt, mais elle doit mourir pour qu'elle continue à pousser, que la semence se reproduise pour s'entendre. Donc, c'est sûr, si on regarde l'ensemble de l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes où on aurait dit que l'Église était pratiquement morte, mais elle était là encore. Dieu a toujours pris soin. Et des fois, c'était plus florissant, d'autres fois, c'était comme...
Mais Dieu, à travers ça... Mais Dieu n'a pas eu besoin de replanter un nouveau royaume. Là.
C'est Tertullien, je pense, qui a dit le sang des martyrs est la semence de l'Église. C'est qu'à quelque part, même si quand on pense que l'Église est en train d'être détruite, dans le temps où il y a eu beaucoup de martyrs et tout, Dieu a utilisé ce sang-là comme une semence pour l'évangélisation.
Comme de l'engrais pour faire pousser la plante. Oui, c'est vrai. On voit un autre parallèle, c'est très semblable, le levain ou le pain qui gonfle par le levain. Là. Celui-là, Marc, il ne l'a pas raconté, celui-là, mais à moi, je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas, il est dans Matthieu 13, 33. Donc, c'est tout de suite après la parabole du grain de moutarde. Il leur dit cette autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Juste une phrase. Puis dans Luc 13, 20, 21, il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Bon, c'est presque la même phrase intégrale. Est-ce qu'il s'agit d'une illustration positive du progrès de l'Évangile ou une illustration négative du progrès du mal dans le monde? Ça peut nous sembler évident, mais il faut savoir que les deux interprétations existent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une autre interprétation qui dit que ça serait une illustration négative pour montrer l'évolution du mal dans le monde ou le mal qui pénètre dans le royaume?
Oui.
Des partisans de l'interprétation négative, c'est parce que lorsque c'est dit, ça, c'est pour montrer que le mal qui peut pénétrer. Paul le dit dans Corinthiens aussi, ou dans Galates, un peu de levain fait lever toute la pâte, faites attention. Là. Vous laissez la porte ouverte à un péché, ça peut corrompre votre vie spirituelle. Je vous liste les points là, de ceux qui interprètent ça de manière négative. Ils disent, bon, selon eux, le levain, ça égale le mal. Ailleurs, dans la Bible, le levain illustre toujours le mal, c'est vrai. Toutes les autres illustrations du levain, ça illustre le mal, ouais, ou l'hypocrisie. Puis certains soulignent aussi le fait que la Pâque, c'était du pain sans levain. Il ne se sert pas de ce fait-là là, pour montrer que si tu laisses quelque chose durer trop longtemps, ça devient mauvais. Quand il parle, méfiez-vous du levain des pharisiens, en partant, il est mauvais, leur levain. C'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est l'orgueil. Quand il dit un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est pour montrer que le péché, là, même si c'est une petite faute, là, ça peut tout détruire. Mais en tout cas, donc, eux, ils soulèvent cela, que le levain ailleurs, ça indique le mal. La farine, ils voient que ça serait l'Église, parce que c'est le produit de la semence, c'est le produit du blé qui est bon. Puis certains font le lien avec 3 mesures qui représentent Christ, comme les 3 jours, puis Christ qui dit « Je suis le pain de vie ». C'est comme si la levure vient rentrer dans le pain pour envahir l'Église. Ils disent « Le levain attaque progressivement la pureté de l'Évangile jusqu'à ce que toute la masse soit pervertie ». Certains ont vu dans la perversion de l'Église catholique, qui est devenue une Église d'État, où est-ce que la grande masse des supposés chrétiens n'étaient même plus des chrétiens. Tu confondais ce qui était un véritable chrétien d'un faux. Mais bon, c'est un anachronisme aussi, ça, cette affaire-là. C'est comme si Jésus parle de quelque chose qui n'était pas encore là, là. Jésus n'est pas en train de parler de la corruption de l'Église, je pense pas.
C'est la première fois, c'est bon, que tu dis à propos du levain des pharisiens. C'est la première fois que je réalise qu'il y a peut-être plusieurs sortes de levain aussi. Ça, c'est le levain des pharisiens. Mais ça veut pas dire que le levain, en général, est mauvais.
C'est ça, oui. Ben, il dit le levain des Sadducéens ou des Hérodiens. Mais Jésus ne dit pas que le levain, en général, est mauvais. Donc, c'est ça, les points qu'on peut dire contre cela, là, c'est qu'un symbole ne doit pas forcément toujours avoir la même signification. Par exemple, le lion peut représenter Satan, qui est un lion rugissant, mais il représente Jésus aussi. Un même animal ou un même objet peut représenter quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, tout dépendant du contexte, hein, dépendamment de la parabole. Ouais, ou Pierre, il dit, faites attention, là. Satan est un lion rugissant qui rôde, qui veut dévorer. Hein. Puis, habituellement, le pain, ce que les gens connaissaient, c'était du pain qui avait du levain. Il y avait toujours du levain. C'était exceptionnellement à la Pâque qu'ils mangeaient du pain sans levain. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, là, les gens, c'était du pain avec du levain. Donc, quand Jésus dit, c'est semblable à une femme qui met du levain dans 3 mesures de farine, c'est ce que les gens connaissaient. C'est la vie quotidienne. C'était pas quelque chose de négatif. C'est pas si la femme est malfaisante puis elle met du poison dans le pain. C'est normal de mettre du levain dans le pain. Puis, le levain n'est pas toujours mauvais. D'ailleurs, même si ordonné pour le jour de la Pentecôte dans Lévitique, vous apporterez de vos demeures 2 pains les dédiés. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. Le pain sans levain, vous connaissez l'origine de cela? Oui, c'est un peu un signe pour leur dire vous mangez à la hâte.
Contrairement à la levure moderne que la plupart des pains utilisent aujourd'hui, le levain, on parlait de la continuité tantôt. Le levain, c'est un morceau de pain qui est pris, qui est gardé, pain qu'on lève. Donc, il y a le principe de continuité aussi dans l'idée du levain.
Oui, exactement. Les gens gardaient un petit bout de pain, puis il y avait de la levure dedans, là, parce que c'est vivant.
Il y avait le pain de l'amitié qu'on peut faire, même encore, on se transmet là, justement la pâte.
Ah, oui, oui.
C'est des gâteaux, hein?
Oui, gâteaux, oui. C'est ça longtemps, ça. Selon le contexte, Jésus, il est en train de parler de la progression du royaume. Donc, naturellement, quand on voit ça, en tout cas, la position où Matthieu l'insère, puis Luc, de toute évidence, il est en train de parler de la progression du royaume, pas la progression du mal dans le royaume. Mais l'interprétation négative, même si ça, elle nous semble un peu tirée par les cheveux, là, pendant très longtemps, même je pense encore aujourd'hui, c'est ce qui est enseigné à Dallas, là, au séminaire de théologie, puis c'est la position officielle des dispensationalistes. Mais c'est tiré par les cheveux. Jésus parle de la progression du royaume. Jésus a annoncé plusieurs fois la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Donc, ça ferait du sens qu'il est encore en train de parler de cela, que ça se répand. D'ailleurs, la parabole du grain de moutarde l'indique aussi. Là. Puis, intuitivement, on voit que c'est quelque chose de bon. Ça semble parler de la croissance intérieure. Si on peut distinguer peut-être avec le grain de moutarde qui pousse, puis ça fait des branches, puis que les gens peuvent, les oiseaux peuvent se cacher à son ombre. Ici, c'est comme si c'est à l'intérieur, c'est le pain lui-même qui grossit. C'est semblable, c'est la croissance ou la pâte qui lève, mais ça semble indiquer une croissance plus intérieure à l'Église. Pas toujours une croissance numérique, ça reste un pain, mais il grossit. Prend du volume.
Parabole du moutardier, c'est que quelque part, si un arbre devient aussi volumineux en surface, il y a des racines pour le supporter aussi. Ça, c'est la croissance invisible qu'on ne voit pas. Ce n'est pas nécessairement en nombre, mais l'Église prend racine, il y a des racines de plus en plus profondes.
C'est vrai.
Il y a autant de racines, la largeur des arbres qu'on voit, il y a autant de racines.
Oui, quand un arbre est déraciné, tu vois, les racines, c'est aussi large. Hein? Donc, croyons que l'interprétation positive est la bonne. Puis, comme pour le grain de moutarde, l'Évangile connaît habituellement de petits commencements. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Comment on le voit qu'aujourd'hui, le royaume continue à grandir, mais ça connaît de petits commencements? C'est pas comme le commencement, là, ça a commencé avec Jésus. Mais on voit comme des petits commencements, des répliques miniatures du grand temple. Comme nous, on est une église locale, on est une représentation de l'église universelle. Donc, on peut le voir dans une localité ou dans une sphère. C'est rarement un début qui est fracassant, là. Boum! Où est-ce que tout le pays se convertit, là. Ça commence petit, ça s'infiltre. Oui, c'est vrai. Chacun de ses disciples est comme une lumière. Donc, ça brille, là. Ça chasse les ténèbres. C'est vrai. Ouais, Jésus a fait des parallèles. Aussi, il compare avec le sel qui donne la saveur. Un faible taux de conversion par des missionnaires. Justement, ça commence petit, mais on ne doit pas se décourager de voir un petit commencement. C'est une graine qui est semée qui peut donner quelque chose de grandiose, puis parfois même c'est après la vie du missionnaire. Les premiers missionnaires du Canada anglais qui sont venus au Québec, là, ça commençait de rien, là, une petite église à gauche, à droite, il y en a qui ont connu la prison. C'était loin d'avoir l'air d'un succès. Mais aujourd'hui, il y a je sais pas combien d'églises, 85 dans notre association au Québec, puis il y a d'autres évangéliques en plus. On est encore moins de 1%, là, ça a l'air modeste, mais c'est beaucoup, là. Si on regarde qu'il y a un petit peu plus qu'une génération, il n'y avait rien, là. Ben, du côté francophone. Puis comment on voit aussi des débuts modestes et dans les conversions? Puis si on oublie par où nous on a passé, on regarde un nouveau croyant, on peut se décourager. Voyons, il apprend pas. Eh bien, il l'a découragé, oui. Mais c'est un pas à la fois, ça commence tranquillement. Mais la croissance spirituelle, là, ça continue, ça fait son œuvre. Puis ça continue jusqu'à quand? Jusque dans l'éternité, selon la parabole. Nous, on ne sait pas c'est quoi toute la pâte. Ça nous est inconnu, mais Jésus nous dit que le royaume va continuer jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc, la croissance continue jusqu'à ce que tout ce qui doit être levé soit levé. On le voit dans Pierre aussi, là, que Dieu patiente jusqu'à ce que tous ceux qui ont entré dans le royaume soient entrés. Il nous demande de patienter nous aussi, mais ça progresse, ça continue, malgré parfois notre négligence. C'est triste parce que parfois, on néglige ce mandat-là, là, de se reproduire, ou d'édifier nos croyants pour qu'il y ait une croissance spirituelle, qu'eux soient des disciples, des formateurs d'autres disciples. Mais même quand on est négligent, Dieu, il s'arrange pour faire grandir cela. Ou il nous ramène à l'ordre. Son œuvre va pas cesser. Ça, c'est impressionnant. Ça fait 2000 ans, là, que ça a commencé, puis ça continue. Ça a marqué l'histoire, là, un début si modeste. Puis le calendrier de l'humanité a recommencé à l'an zéro avec Jésus. Quand on date n'importe quel événement dans l'histoire, c'est toujours soit après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Un petit commencement comme ça, puis c'est devenu un arbre. Là, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus, parce que peut-être tu ne le connais pas. Là, mais juste dans les dates, aujourd'hui, on est en 2000 après Jésus-Christ. En 2016. Oui, Louise?
Ça me rappelle ce que Gamaliel a dit dans Actes, quand il a dit « On va laisser ça aller. Si ça vient des hommes, ça sera pas long que ça va s'éteindre. »
C'est vrai.
Si ça vient de Dieu, on ne pourra pas. On est mieux de pas aller à l'encontre. En tout cas, c'est ça. Qui va l'empêcher.
Des petits commencements modestes, mais on ne doit pas mépriser cela. Si on perd cette notion-là, là, que c'est Dieu qui bâtit son Église, bien, c'est ce qui nous pousse à faire des folies comme les croisades, là. Sortir avec l'armée pour aller imposer la foi dans d'autres pays. Bien, tu dis, il faut investir les moyens les plus forts qu'on a. Mais c'est ridicule. Le royaume ne s'implante pas comme ça. Ça s'implante d'une manière... Mais c'est impressionnant de voir même les percées que le royaume fait, même parmi les musulmans. On avait plusieurs nouvelles la semaine passée pendant la formation. Là. C'est impressionnant, là. Ça pénètre. Là. Puis là, ça doit encore être clandestin aujourd'hui parce que ceux qui avouent être chrétiens, ils risquent leur vie. Ouais. Puis tu ne veux pas nécessairement exposer ta vie puis mourir. Tu veux continuer à évangéliser. Donc, ça reste clandestin, les églises, mais ça envahit. Là. Ça rentre dans le Pakistan, dans plusieurs pays dans le monde. C'est impressionnant. On va prier. Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour conclure?